Avoir raison avec John Rawls. Le problème du libéralisme politique peut se formuler de la manière suivante. Comment est-il possible qu'existe et se perpétue une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux, mais profondément divisés entre eux, en raison de leur doctrine compréhensive, morale, philosophique et religieuse, incompatibles entre elles, bien que raisonnables? Eh bien, c'est le programme que se donne John Rawls dans son autre grand livre intitulé « Libéralisme politique » qui a été publié en anglais en 1993. Hier, nous avons vu comment, dans « Théorie de la justice », Rawls avait proposé un certain nombre de principes capables d'inspirer ce qu'il appelle « la justice comme équité ». Il y conjugue, nous l'avons montré avec nos invités, « libéralisme politique » et « égalitarisme social ». D'un côté, défense des libertés de base et juste égalité des chances, ça c'est pour le libéralisme. Priorité au sort des plus désavantagés comme critère d'évaluation des politiques publiques, et ça, c'est du solidarisme. Alors, le discours médiatique ambiant, parce qu'il est globalement ignorant, nous présente généralement le libéralisme sous la forme caricaturale que lui ont conféré ses adversaires. Dans cette version polémique, les penseurs libéraux sont présentés comme des promoteurs de l'égoïsme individuel et donc des destructeurs du lien social. Or, Rawls se rattache, lui, au courant républicain qui prône au contraire le civisme. L'antilibéralisme dominant prétend aussi que les libéraux sont les défenseurs attitrés des riches et des puissants. Or, Rawls est égalitariste et même hostile à la méritocratie. Il est certes favorable au marché, mais très méfiant envers le capitalisme. Il défend une démocratie de propriétaires où l'héritage, par exemple, serait lourdement taxé afin de diffuser largement le capital. Bref, ce libéral ne correspond vraiment pas à ce qu'on dit généralement du libéralisme. Alors Rawls, libéral ou pas? Si oui, en quel sens? Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser au libéralisme de John Rawls.
It is a society in which everyone accepts and knows that everyone else accepts the same principles of justice.
France Culture, avoir raison avec John Rawls, Brice Couturier.
Nous allons le faire en compagnie de Catherine Audard. Vous avez traduit les deux grands livres de Rawls, Théorie de la justice et Libéralisme politique. Vous enseignez la philosophie politique et morale à London School of Economics. Et vous avez publié tout récemment un livre consacré à l'actualité de John Rawls qui s'intitule « La démocratie et la raison ». Rima Aoui, vous venez de consacrer un ouvrage à l'évolution de la pensée de Rawls que vous avez reconstitué notamment en consultant ses archives personnelles. Le titre « John Rawls, itinéraire d'un Américain libéral, plutôt d'un libéral américain, vers l'égalité sociale ». Avec nous également au téléphone, Alain Policard, vous êtes chercheur au CEVIPOF. Vous avez notamment publié « Le libéralisme politique et son avenir » dans lequel on trouve un chapitre entier consacré à Rawls. Alors commençons par vous avec la première question. Certains libéraux, je pense notamment à Alain Laurent, dont j'ai lu un livre consacré au libéralisme, dénient absolument à John Rawls le label de libéral. À vos yeux, John Rawls est-il donc un libéral? Et si oui, pourquoi et dans quel sens?
La question est pour moi, si j'ai bien compris.
Oui, oui. Oui. Ouvrez le banc.
Parfait. Oui, ce que dit Alain Laurent mérite d'être tout à fait discuté. Il considère que, d'une façon générale, le principe de différence fait obstacle au libéralisme et par conséquent, Rawls, pour lui, ne peut pas prétendre l'être, puisqu'il trouble en quelque sorte avec ce principe de différence dont vous avez parlé les deux jours précédents, il trouble le jeu du marché, précisément. Et puis, il lui reproche aussi, et c'est peut-être un reproche qui est plus intéressant à examiner, de travestir l'anthropologie libérale. Et d'une façon générale, je crois que le tournant que nous évoquons aujourd'hui de 1993 avec le libéralisme politique marque effectivement une certaine distance avec l'œuvre de 71 dont nous avons parlé, qui est
théorie
de la justice, qui est justification de l'État-providence. Alors qu'en 93, on est peut-être plus dans la recherche de la stabilité, de l'unité des systèmes politiques libéraux. Et en fait, en rompant avec toute possibilité de rattacher le libéralisme à une conception métaphysique, on peut comprendre que l'argument de Laurent soit de dire que John Rawls est un déviationniste. Alors, je ne partage pas du tout cet avis. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le chapitre que vous avez eu la gentillesse de citer. Il se trouve que les principes fondamentaux de Rawls restent libéraux si on comprend le libéralisme comme une théorie, ce qu'il se veut être, une théorie profondément égalitariste. L'ancrage de Rawls de ce point de vue-là est incontestablement dans l'égalitarisme, même si incontestablement il a gardé vis-à-vis d'un certain nombre de positions qu'il a combattues dans sa jeunesse, une certaine sympathie. On a beaucoup parlé les jours précédents de l'utilitarisme. Il a été fondamentalement utilitariste dans son premier grand article de 55. Catherine Audard me corrigera si je me trompe. Il restait dans l'orbite utilitariste. Et je crois que de façon générale, on a tendance à considérer que l'utilitarisme est une pensée faible, ce qui me paraît inexact. La façon dont l'utilitarisme examine ce problème essentiel de la justice sociale a semblé à Rawls devoir être réfuté pour les raisons que vous avez également évoquées, en raison du fait que l'utilitarisme n'accorde pas au caractère distinctif des personnes une place suffisante et que dans sa logique il est effectivement à même de justifier, par exemple, l'esclavagisme, ça me paraît être tout de même assez rapide. Donc, en fait, Rawls est, comme les utilitaristes, profondément attaché à une position qui consiste à établir des règles impartiales de justice sociale. Mais du point de vue d'Alain Laurent, que vous avez cité, donc du point de vue d'Alain Laurent, le fait de modifier par le principe de différence le libre jeu des institutions, le libre jeu de l'économie, fait que, pour Laurent, Sinozic et Hayek, par exemple, qui sont souvent considérés comme des libertariens, sont libéraux, eh bien, Rawls ne l'est pas. Et encore une fois, ça n'est pas mon sentiment.
Okay. Alors, la chose se complique du fait que liberal en américain, ça veut dire de gauche, et donc favorable à une extension du rôle distributeur de l'État et de son intervention dans l'économie. En Europe, être libéral, classical liberal, comme disent les anglo-saxons, ça implique au contraire une méfiance envers les pouvoirs et qui pousse à la recherche des meilleurs moyens de diviser ces pouvoirs entre eux afin de protéger les droits de l'individu. Si vous ajoutez à cela que Rawls a provoqué, enfin que la lecture de Rawls a provoqué le fameux débat qui s'en est suivi pendant toutes les années 90 entre les liberals et les communautariens, on voit qu'il est très difficile de se mettre d'accord sur le sens même du mot libéral, Catherine Audard.
Mais bien sûr, oui, je dirais qu'il y a des libéralismes. Parler du libéralisme, c'est vraiment une simplification un peu désastreuse, parce qu'en réalité, il y a une histoire extrêmement riche et des libéralismes. Et Rawls, je pense, se situe dans une tradition américaine qui est celle du progressisme américain, qui date du début du XXe siècle, essentiellement ensuite avec John Dewey. Et il essaye vraiment de reprendre les principes du progressisme en les adaptant au contexte contemporain, c'est-à-dire du mouvement des droits civiques, etc., du mouvement d'égalité des droits, la révolution des droits de l'homme. Bon. Et donc c'est très très difficile de classer comme ça avec des étiquettes, et je sais que quand j'ai écrit mon livre sur le libéralisme, dans lequel un chapitre entier est consacré au libéralisme, au nouveau libéralisme social en Europe et aux États-Unis, et ensuite un chapitre sur Rawls, ça a été très très mal reçu par les libéraux classiques ou les libertariens, bien entendu, qui prétendaient avoir le monopole du label libéral.
Et vous êtes une libérale de gauche, vous ?
Absolument, absolument, oui.
De
gauche et de droite. Je me souviens quand j'avais demandé à John Rawls une préface pour la traduction française, et je lui avais dit, pour les Français, il faut absolument que vous définissiez où vous vous situez. Et il m'avait répondu, eh bien écoutez, moi je me situe dans la tradition, par exemple, du Labour au Royaume-Uni, c'est-à-dire un mouvement, enfin un libéralisme social centriste, si vous voulez, hein, c'est ça. Alors, ce sont des traditions historiques et qu'on a beaucoup de mal à réduire comme ça à des entités toutes faites. Je crois que le problème de base, c'est celui du social. C'est-à-dire, vous vous souvenez, Maggie Thatcher disait « la société, ça n'existe pas », reprenant Hayek, c'est une construction idéologique. Le social, pour Rawls, est construit à partir des individus et de leur conscience d'être en situation de réciprocité les uns avec les autres, comme on l'a vu avec la position originelle hier dont vous parliez, cette idée, de cette capacité de réciprocité qui se trouve dans la conscience individuelle et qui n'est pas quelque chose d'abstrait. Alors voilà, c'est vraiment le centre du problème, l'individuel et le social, et les compréhensions extrêmement variées de cette tension à travers l'histoire du libéralisme.
Alors, Rawls est favorable au marché, mais méfiant, voire hostile, au capitalisme, en tout cas au capitalisme de laisser-faire. Et vous concluez, Rima Hawi, dans votre livre donc consacré à John Rawls, sur un Rawls qui serait tenté par le dépassement du système capitaliste. Ce qu'il appelle, entre parenthèses, entre autres, la démocratie de propriétaire. Mais est-ce que la démocratie de propriétaire, c'est compatible? La démocratie de propriétaire, ça veut dire, dans le sens de Rawls, si j'ai bien compris, de répartir le capital aussi largement que possible, que ça donne un petit peu ce que Tony Blair avait essayé de faire en donnant une dotation de capital initiale à tous les jeunes britanniques qui naissent. C'est pas hostile au capitalisme, ça, c'est le capitalisme généralisé, au contraire.
Alors, il y a tout un débat là-dessus, malheureusement pas assez présent en France. Je pense qu'il y a une évolution dans la pensée de Rawls, entre le Rawls de théorie de la justice, celui de libéralisme politique et celui de son dernier ouvrage, qui est une reformulation de théorie de la justice. D'ailleurs, l'édition française de 1987 est très importante parce qu'on saisit déjà dans la préface de 1987 cette opposition que veut mettre en avant Rawls entre le capitalisme de l'État-providence et la démocratie de propriétaire. Cette démocratie de propriétaire est inspirée d'un socialiste qui s'appelle, d'un économiste socialiste qui a aussi un peu changé de bord, qui s'appelle James Smith. Donc la différence entre le capitalisme de l'État-providence, dont beaucoup d'auteurs ont associé la théorie de Rawls, la majorité en réalité des commentateurs ont associé Rawls à l'État-providence. La différence avec la démocratie de propriétaire, c'est que la démocratie de propriétaire va essayer de travailler en amont de la redistribution sur la propriété des moyens de production, et c'est pour ça que je dis Rawls, c'est un parcours du libéralisme classique vers l'égalité sociale, puisqu'il va introduire des thèmes qui sont au cœur de la tradition socialiste, la propriété des moyens de production, la responsabilité collective, la question des inégalités, etc. Donc l'État-providence ne fait que corriger à la marge les inégalités en redistribuant après coup les richesses aux individus les plus pauvres, alors que la démocratie de propriété ou le libéralisme de marché, libéralisme libéral, tente de redistribuer en amont la propriété des moyens de production et la propriété, je dirais, des talents à travers le travail de l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment saisir Rawls dans l'évolution de sa pensée, puisque c'est un auteur, pour moi, c'est une œuvre collective qui s'enrichit du débat et du travail avec les autres auteurs de toute tendance de droite, de gauche, on dirait, sur l'échiquier politique.
C'est un work in progress.
Absolument, et donc il faut absolument qu'on se saisisse du travail de Rawls, encore plus aujourd'hui, mais on reviendra peut-être sur cette question, que dans les années 70 ou 80.
Enfin, c'est quelqu'un qui a enrichi sa pensée au fur et à mesure qu'elle était contestée, mais qui a maintenu un cap assez rigoureux. Vous, oui. C'est ce que vous observez quand vous l'avez étudié dans sa progression ?
Un cap rigoureux autour des principes de justice, autour de la construction que vous avez vue hier dans l'émission, c'est-à-dire la position originelle, le voile d'ignorance.
Ça bouge pas.
Ça bouge pas. Autour des
trois principes non plus.
Les trois principes ne bougent pas, mais je tiens à préciser que ce qui va bouger au niveau des trois principes, c'est la manière de les voir. Donc, on avait d'abord le premier principe, l'égale liberté pour tous, qui avait priorité sur l'égalité des chances et le principe de différence. Rawls va insister dans son dernier ouvrage pour dire que les trois principes forment une unité. Il ne s'agit pas d'un libéralisme politique qui oublierait abordait les questions d'inégalité sociale. Et donc, ça fonctionne en tandem. Parce que, vous savez, j'ai travaillé sur les économistes et les économistes ont eu tendance à prendre chez Rawls uniquement le principe de différence pour le critiquer, je dirais, très sévèrement.
J'envoie les auditeurs à la lecture d'un article très intéressant que vous avez publié et que j'ai sous les yeux, qui s'appelle « John Rawls, un philosophe chez les économistes » et qui montre effectivement à quel point le débat chez les économistes a provoqué chez Rawls lui-même des remises en cause partielles, en tous les cas, de sa doctrine. Vous parlez des derniers écrits de John Rawls, Rima Aoui, mais précisément dans ses derniers écrits, Rawls discutait des mérites respectifs des types de régimes en lien avec l'économie. Et je vais les énumérer tel que Rawls lui-même les énumère. Et je demandais à Catherine Audard de nous départager. Il y a le capitalisme du laisser-faire, dit Rawls. C'est ce que vous venez de dire, c'est Thatcher. Le capitalisme du laisser-faire, c'est capitalisme sauvage. Il y a le capitalisme de l'État-providence. C'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il appelle, si je comprends bien, le capitalisme de l'État-providence, c'est la social-démocratie. C'est-à-dire un capitalisme qui a un fort pouvoir de redistributeur étatique, ex post et non pas ex ante. C'est-à-dire que pour compenser les inégalités sociales, il y a un fort travail de redistribution. Il y a enfin le régime socialiste. Il y a le socialisme d'État avec économie dirigée. Ça, on comprend bien que c'est le régime communiste et il n'en veut pas parce que c'est des régimes autoritaires et donc ça contredit le premier principe, celui de liberté pour tous, le régime de liberté pour tous le plus étendu possible. Et puis, il distingue enfin le régime socialiste libéral, dit-il, et la démocratie de propriété. Rima, ah oui, c'est ce que vous venez de nous expliquer. En France, nous avons longtemps pris Rawls pour un défenseur de la social-démocratie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il a été rejeté, en réalité, à l'époque de sa parution, parce qu'en France, nous n'étions pas prêts pour la social-démocratie dans les années 70. Et pourquoi? Parce que sa théorie agrégeait une défense des libertés individuelles et puis un objectif d'égalité sociale. Nous nous sommes donc trompés sur le vrai programme politique de Rawls. Et d'ailleurs, Catherine Audard, vous le reconnaissez vous-même dans une note de la page 111 de votre livre qui s'appelle « La démocratie et la raison ». Vous dites « J'avais cru comprendre que Rawls était un social-démocrate. Eh bien non, il ne l'est pas. J'écrivais « John Rawls a formulé ce qu'on pourrait appeler une charte de social-démocratie moderne avec ses forces et ses faiblesses, mais en réalité, c'était une erreur. » Alors, c'est formidable de voir quelqu'un qui est considéré comme la meilleure spécialiste de John Rawls en langue française, nous dire « Je n'avais pas compris Rawls ».
Oui, bien sûr, je n'avais pas compris Rawls parce que j'essayais dans les années 80, quand j'ai commencé mon travail de traduction et quand j'ai discuté avec lui, j'essayais de le mettre dans un cadre français sans me rendre compte, si vous voulez, des incompatibilités. Hein. Et donc, j'ai fait une erreur, certainement, dans mon
présentation. On l'a tous fait, parce qu'on a tous pris Rawls pour un social-démocrate.
Tout à fait. Et mais en même temps, l'ambiguïté était quand même là, et je crois que c'est seulement dans le dernier livre, La justice comme équité, une reformulation, qu'il clarifie tout cela en disant, au fond, l'État-providence capitaliste, comme on vient de le dire à l'instant, ne s'attaque pas du tout aux causes des injustices et s'attaque simplement aux effets néfastes de la compétition capitaliste et de l'économie de marché. Donc il faut revenir à la source et s'attaquer aux causes. Donc là, c'est un projet qui est évidemment qui n'est pas celui du keynésianisme ou de la social-démocratie. Bien sûr, ça va. C'est différent puisqu'il s'agit vraiment de remettre en circulation l'accès au capital qui est la cause majeure des inégalités. Et ça c'est très intéressant parce que ça rejoint vraiment les positions de Thomas Piketty, par exemple.
Ou d'Amartya Sen
aussi, bien sûr, mais Piketty, c'est très intéressant parce que au fond, il s'est intéressé non pas seulement aux inégalités de revenus, mais aux inégalités de patrimoine. Et c'est exactement le point de vue Rawlsien, hein, de s'attaquer aux inégalités de patrimoine et pas seulement de revenus. Donc c'est vraiment la source du problème pour lui. Et c'est là que ça change vraiment, la perspective change vraiment par rapport à la pensée économique et sociale de l'après-guerre, des Trente Glorieuses et du keynésianisme triomphant. Hein. Vraiment, il y a un tournant qui est pris là. Oui.
D'où Rima, oui, l'idée qu'il propose un impôt très lourd sur les successions pour répartir le capital et empêcher la constitution d'oligarchie héréditaire.
Oui, alors Rawls va donner des pistes en fait pour ce dépassement du système capitaliste à travers l'imposition, par exemple, à travers, il va parler de services publics. Donc pour nous en France, évidemment, c'est quelque chose qui nous parle, mais aux États-Unis, c'est pas la même chose. Mais je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Catherine Audard, dans la préface de l'édition française de 1987, Rawls dit, comme pour toute conception politique, les lecteurs ont tendance à vouloir la situer sur l'échiquier politique. Mais les termes utilisés, vous l'avez dit tout à l'heure, varient selon les pays. Aux États-Unis, cette conception serait appelée libérale ou libérale de gauche, en Grande-Bretagne, donc il fait référence à la social-démocratie. Puis il ajoute, mais étant donné que je connais mal la vie politique française, je laisse à d'autres le soin de trouver les appellations. Et en réalité, c'est effectivement sur la quatrième de couverture que John Rawls est associé à la social-démocratie. Lui-même n'a pas fait ce travail-là. Et quand on regarde,
c'est l'éditeur.
C'est l'éditeur. Et donc quand on regarde, c'est mon travail dans les archives, les index de Rawls, en fait, c'est des index que lui-même écrivait à la main. C'est une passion qu'il partageait avec sa femme. Donc tous les livres que l'on peut trouver à Harvard, qu'il a lus, il y a à la fin un index. Donc il y a une indication que nous donne Rawls. Dans Théorie de la justice, il ne fait pas référence au libéralisme, il ne fait pas référence au capitalisme. Dans Libéralisme politique, de fait, sa théorie va évoluer en confrontation avec les utilitaristes, mais je n'ai pas le temps de développer, il va s'attacher à mettre en avant le libéralisme politique. Enfin, dans le dernier ouvrage de Rawls, il va plutôt parler d'utopie réaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit dorénavant de tracer le chemin, il ouvre des voies, vous avez parlé de la question de l'impôt, de tracer le chemin à partir de la société telle qu'elle est, des inégalités qui existent aujourd'hui, qui frappent les plus désavantagés de la société, vers un dépassement du système capitaliste. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant que c'est publié en 2000-2001.
Alain Policard, dans Libéralisme politique, vient de citer Rima Haoui, Rawls semble beaucoup préoccupé de la question de la coexistence au sein de nos sociétés démocratiques modernes, de ce qu'il appelle les fameuses doctrines compréhensives. Moi, je traduirais, disons, les grands récits qui prétendent donner une vérité ultime, englober tous les aspects de la vie personnelle et sociale. Comment faire coopérer, et pas seulement coexister, hein, parce que c'est vraiment la question du moment, comment faire coopérer et pas seulement coexister des personnes qui adhèrent à des doctrines très éloignées et parfois antagonistes? C'est quand même le sujet du jour.
Oui, effectivement, c'est certainement ce que la principale difficulté de la doctrine rawlsienne, c'est-à-dire que ce pluralisme raisonnable se heurte effectivement à la survivance de théories déraisonnables. Et la difficulté est là. Je voudrais même revenir sur le libéralisme politique, parce que le terme de libéralisme politique chez Rawls s'oppose, vous l'avez dit à plusieurs reprises, aux doctrines compréhensives. C'est-à-dire que c'est un libéralisme qui est, de ce point de vue-là, tout à fait éloigné de toute théorie du bien, puisqu'on ne l'a peut-être pas dit aujourd'hui pour Rawls, même s'il reconnaît qu'il existe des théories du bien qui peuvent être relativement inconciliables, il se réfère à une théorie du juste, et cette priorité du juste sur le bien a été fortement questionnée. Je pense que il est difficile, et c'est peut-être un des reproches que, pour revenir à votre première question, qu'Alain Laurent pouvait faire, il est difficile de se passer d'une théorie du bien au sein du libéralisme. Au moins une méta-éthique. Parce que l'éthique est extrêmement présente chez Rawls, le lien entre politique et éthique est très présent, mais il semble tout de même le tenir un tout petit peu à distance, par crainte de ne pas pouvoir parvenir à ce qu'on appelle le consensus par recoupement. Il y a là incontestablement une tension, je crois que le libéralisme politique, comme lui ont reproché, enfin du moins le remarqué certains théoriciens républicains comme Philippe Petit, marque une différence très importante d'approche avec la théorie de la justice. Et ce que je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est que chez Alain Laurent, il y a l'idée que le libéralisme économique et le libéralisme politique, alors au sens large du libéralisme politique, non pas au sens rawlsien, ne peuvent pas vraiment être séparés. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement contestable et à laquelle, évidemment, Rawls ne souscrit pas. Alors, vous avez signalé la pensée d'Amartya Sen tout à l'heure, à juste titre, me semble-t-il, parce que c'est, à mon sens, la contestation la plus intéressante de la pensée rawlsienne. Il reproche, vous le savez, à Rawls de considérer les ressources comme des biens inertes et non comme des relations entre la personne et les ressources. Et c'est pour ça que Sen impose propose l'idée que ce qui importe, c'est la capacité de tirer avantage des ressources, de les transformer, comme il le dit, en utilité ou en capacité. C'est-à-dire le fait, c'est assez proche, cette notion de capacité ou capacité, assez proche d'une théorie républicaine axée sur liberté positive. Il ne faut pas simplement avoir des droits formels, il faut aussi avoir les moyens de s'en servir. Et c'est intéressant que ce soit un économiste et philosophe comme Sen qui conteste, notamment dans un ouvrage, enfin dans plusieurs ouvrages, mais dans l'ouvrage de l'idée de justice, où il dit qu'il ne s'agit pas simplement de combattre l'inégalité de revenus, mais également l'inégalité de pouvoir. C'est intéressant que ce soit un économiste comme Sen qui fasse ces objections-là. L'important chez Sen, c'est précisément le cadre relationnel et l'attention, je dirais, d'abord au statut de victime, à l'injustice, et non pas aux institutions, aux institutions capables de garantir la justice.
Je voudrais finir, oui. Parce que l'émission va se terminer sur quelque chose d'extrêmement polémique, parce que je pense que c'est très drôle. C'est la question des surfeurs de Malibu, qui a provoqué une polémique publique à propos de ce que Rawls appelle les free riders de la société. Ouais. Question de fond, c'est est-ce qu'il faut subventionner ceux qui ont décidé de ne pas travailler, de ne se livrer à aucune activité productive? Et ça a donné un débat formidable, Rima, oui.
Oui, ce débat est tout à fait passionnant, engendré par une discussion entre John Rawls et Philippe Van Parijs, donc sur le fait que les surfeurs de Malibu, c'est-à-dire les plus désavantagés, peuvent passer leur journée à surfer sur la plage en attendant les aides sociales. Et Rawls dit au début qu'il est hors de question, puisque Rawls, en tant que libéral, est pour la responsabilité individuelle. Sauf que ça va donner lieu à un débat, et que Rawls va devoir considérer, face à une attaque virulente des économistes qui vont défendre plutôt les désavantagés de la société face les avantagés de la société face aux désavantagés, Rawls va changer son discours, va prendre en compte la responsabilité collective de la société à fournir des emplois.
Et mais aussi, quand même pas aller jusqu'à le revenu universel, c'est ça quand même.
Il ne va pas aller jusqu'au revenu universel. Vous savez que c'est plutôt les commentateurs qui se saisissent, et je trouve ça très bien, de la théorie de Rawls pour tracer des alternatives. Et donc quand même, il va modérer sur ses propos, encore dans son dernier ouvrage, en disant que les plus désavantagés de la société, ce sont pas les surfeurs de Malibu qui attendent toute la journée les aides sociales, qu'ils contribuent.
Et les vagues,
qu'ils contribuent à la richesse du pays. Et donc, il va avoir une lecture, je dirais, marxiste de la société. Les plus désavantagés, ce sont les travailleurs de la société. Et les plus avantagés, ce sont les capitalistes. Et là encore, c'est une lecture progressiste de Rawls.
Je vous remercie, Rima. Oui, je rappelle le titre de votre ouvrage, John Rawls, itinéraire d'un libéral américain vers l'égalité sociale. Je rappelle également le titre de votre dernier ouvrage, Catherine Dark, qui est une défense et un plaidoyer pour John Rawls. La démocratie et la raison, sous-titre Actualité de John Rawls. Et puis Alain Policard, je rappelle le titre de votre livre Le libéralisme politique et son avenir. Il y a un chapitre entier consacré à Rawls et il est fort intéressant.